Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le mariage entre Renault et Fiat Chrysler. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire réclame à l'instant des garanties sur l'emploi et c'est bien l'inquiétude de certains salariés Renault. Nous serons à la sortie de l'usine de Flins dans un instant. Après l'élection, place aux tractations. Qui pour présider la Commission européenne? Quelles alliances entre les groupes du Parlement? Les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent dès ce soir pour en parler à Bruxelles. Et dès ce matin, dans ce studio, c'est le ministre des Affaires étrangères qui donnera le la.
Jean-Yves Le Drian, avec lequel vous pourrez dialoguer. Appelez-nous, le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
Et le scrutin européen à peine passé se profile déjà. Les municipales, La République En Marche, édictera ses règles aujourd'hui pour départager ses nombreux candidats. À la une également, premier procès d'un État américain contre un labo pharmaceutique fabricant d'opiacés. La taxe GAFA au cœur des discussions entre les pays de l'OCDE à Paris. Les éleveurs qui demandent à pouvoir s'armer contre le loup en France. Et puis le début de notre série sur le livre inter avant le vote des jurés dans un peu moins de 15 jours. Nous allons vous faire découvrir chacun des 10 livres en compétition.
France Inter.
Le japonais Nissan faisait la fine bouche, préférant l'alliance à la fusion avec Renault. Renault a donc trouvé un autre fiancé, l'italo-américain Fiat Chrysler. Dominique Seux nous a parlé tout à l'heure des coulisses des tractations entre les deux constructeurs. Si le mariage se confirme, Renault prendra officiellement sa décision la semaine prochaine. Il donnera naissance au troisième groupe mondial du secteur, avec 8,7 millions de véhicules vendus chaque année. Plus c'est gros, plus c'est beau, diront certains. Les avis des ouvriers de l'usine Renault de Flins sont plus mesurés, Sébastien Sabiron.
Au portique de l'usine, l'équipe de jour croise l'équipe de nuit. Chek prend son service. Intérimaire chez Renault depuis 17 ans, il espère que cette fusion aura lieu.
On est déjà à la fin de la Clio 4. Là, on fabrique la Nissan Micra plus la Zoé. Et si on a une nouvelle voiture, ça c'est une bonne chose, surtout pour nous les intérimaires.
Mounir partage cet enthousiasme, conscient aussi que Fiat, à la traîne sur les véhicules électriques, a beaucoup à gagner dans cette fusion.
Fiat, elle est intéressée d'une fusion avec Renault, hein, ça c'est sûr et certain, parce que la technologie Renault, là, elle est en avance sur tous les autres constructeurs. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Renault. Hein. L'union fait la force, comme on dit.
Ce rapprochement permettrait aux deux constructeurs d'investir sur l'électrique et la conduite autonome en dégageant plus de 5 milliards d'euros grâce à des synergies. Olivier Augustin, délégué CGT, pressent des menaces sur l'emploi.
Bien sûr, ils vont nous faire le coup des doublons. Ils vont nous mettre en concurrence les uns les autres. Il y a les synergies, il y a les convergences, et puis j'en oublie encore pour exprimer l'idée qu'il faut absolument faire des gains de productivité, de réduire les coûts. Et réduire les coûts, pour nous, ça veut dire une aggravation des conditions de travail, des conditions de vie, une aggravation des salaires. Et ça, c'est inacceptable.
Reste la question Nissan, allié stratégique de Renault, mais à ce stade tenu à l'écart de la discussion. Dans le contexte tendu de l'affaire Carlos Ghosn, certains salariés craignent que ce mariage annoncé fragilise une relation de 20 ans avec le partenaire japonais.
Et l'État français sera vigilant sur l'emploi, vient de dire Bruno Le Maire, qui exige qu'il n'y ait aucune fermeture d'usine en France. Le ministre de l'économie précise que la participation de l'État automatiquement au groupe sera réduite à 7,5%. L'action Renault, elle, s'est envolée de 12% hier à la Bourse de Paris.
Il est 8h05, Florence. Ils seront 28 à table pour le premier dîner bruxellois du Conseil européen après les élections.
28 chefs d'État et de gouvernement pour parler de la suite, des alliances entre les groupes de leur majorité respective et des postes clés de l'Union, au premier rang desquels celui de président de la Commission européenne. C'est elle qui présente les textes de loi au Parlement, elle aussi qui distribue les financements européens. Traditionnellement, c'est le candidat du groupe arrivé en tête qui est désigné, sauf qu'ils sont nombreux à ne pas vouloir de l'allemand Manfred Weber du PPE. Emmanuel Macron est de cela. Angélique Boin, mais a-t-il les moyens de peser dans la discussion ?
Une courte défaite, certes, mais une défaite tout de même. Elle ne mettra pas le président français en position de force ce soir face à la quinzaine de chefs d'État et de gouvernement sortis vainqueurs des élections chez eux, dont les populistes et nationalistes polonais et hongrois. Angela Merkel arrive affaiblie, elle aussi, par le score historiquement faible des conservateurs allemands. Tous deux vont donc tenter d'accorder leur point de vue et éviter d'arriver divisés au Conseil. En jeu, il y a la répartition des postes clés à la tête des institutions, en particulier celui de la présidence de la Commission. Le président français veut une une forte personnalité capable de traiter d'égal à égal avec un Trump ou Xi Jinping. Sa capacité à convaincre ses partenaires d'écarter la candidature de l'Allemand Manfred Weber sera un test crucial pour sa crédibilité. En coulisses, il y a aussi toute la reconfiguration des groupes politiques dans la future Assemblée. Et là, Emmanuel Macron s'estime en position de force. Ses élus de La République En Marche seront en effet la première délégation dans le futur groupe centriste réformiste en cours de composition dans les couloirs feutrés du Parlement. À Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Et au niveau national, c'est un scrutin qui pèse lourd sur les épaules de Laurent Wauquiez, affaibli par le plus mauvais score jamais réalisé par la droite sous la Ve République, 8,4%. Le voilà donc poussé vers la sortie par une partie de son camp. Lui s'est contenté hier soir au bureau politique de LR d'annoncer des états généraux pour tout remettre à plat à la rentrée. Il fera face ce matin aux députés Les Républicains à l'Assemblée. Et après ces élections européennes, La République En Marche met déjà le cap sur les municipales. Le parti réunit aujourd'hui tous les prétendants à la mairie de Paris et ils sont nombreux. Deux anciens ministres, Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, le député et mathématicien Cédric Villani ou encore Anne Le Breton, une conseillère de Paris. Alors qui sera désigné? Karine Bécard et surtout, comment? C'est ce que la REM doit dire cet après-midi.
À 10 mois des élections municipales, La République En Marche a décidé d'accélérer le tempo. À Paris notamment, mais pas seulement, où il faut faire cesser ce bal des prétendants. Puisqu'ils sont déjà au moins 4 candidats, sans qu'aucun n'ait réussi à s'imposer naturellement par rapport aux autres concurrents, et sans compter qu'il pourrait y avoir de nouveaux postulants après le très net succès du parti d'Emmanuel Macron aux élections européennes dans 16 des 20 arrondissements. Il était donc grand temps pour La République En Marche de mettre en place des règles pour sélectionner celui ou celle qui sera investi par le mouvement. Ces règles seront officiellement présentées aujourd'hui aux différents candidats qui seront donc concrètement auditionnés par la CNI, la Commission Nationale d'Investiture du Parti, qui les testera sur leur stratégie, sur leur positionnement politique et sur leur capacité à construire pour chaque arrondissement une bonne liste. Des critères on ne peut plus flou en réalité, qui permettront au président Macron d'être le seul à décider avant l'été.
Karine Bécard, le suspect de l'attentat au colis piégé de Lyon est toujours en garde à vue, comme ses parents et son jeune frère arrêtés hier matin. Parmi les éléments qui ont permis de remonter jusqu'à lui, plusieurs achats sur Internet qui ont permis de confectionner l'engin qui a blessé 13 personnes vendredi. 2 morts, dont une écolière, et 17 blessés dans une attaque au couteau dans la banlieue de Tokyo, au Japon, ce matin. L'agresseur a ensuite retourné son arme contre lui, s'infligeant des blessures mortelles. On ne connaît pas ses motivations. Et puis au Brésil, des violences dans des prisons du nord du pays ont fait au moins 55 morts depuis dimanche. On parle de rixes entre détenus dans des prisons surpeuplées et gangrénées par les rivalités entre bandes.
Et aux États-Unis, Florence, il est 8h09, la gangrène justement porte un nom.
Le fentanyl et ses dérivés, c'est la crise des opiacés qui fait baisser l'espérance de vie. 70 000 morts par overdose l'an dernier, des millions d'Américains dépendants à ces antidouleurs, d'abord prescrits légalement par les médecins, encouragés par les labos. Aujourd'hui, Johnson & Johnson comparaît devant la justice de l'Oklahoma, poursuivi par l'État lui-même. Et c'est un procès qui fera date, Grégory Phillips.
En Oklahoma, les overdoses liées à la consommation d'opiacés font désormais plus de morts que les accidents de la route. Et en 2012, année record, les médecins d'Oklahoma prescrivaient plus d'analgésiques qu'il n'y avait d'habitants dans cet État. Alors les autorités locales ont décidé de se retourner contre les laboratoires pharmaceutiques. Depuis 2004, plus de 10 000 habitants sont morts d'overdose, déclare le procureur général d'Oklahoma, Mike Hunter. Et l'an dernier, près de 50% de ces overdoses ont été causées par la prise de médicaments opiacés. La crise sanitaire a débuté à la fin des années 2000. Les laboratoires pharmaceutiques et leurs services marketing incitent les médecins à prescrire tel ou tel analgésique pour la moindre douleur. Le docteur John Aldis, qu'on avait rencontré l'an passé dans un autre état frappé, la Virginie-Occidentale, se souvient très bien de cette époque. Autour de moi, tout le monde mourait. Et à chaque fois, leur addiction avait commencé avec quelques pilules, mais en vérité, ce qu'il se cachait derrière tout ça, c'est l'argent. Aujourd'hui, le laboratoire Johnson & Johnson se retrouve sur le banc des accusés. 2 autres labos échappent au procès grâce à des accords financiers de dernière minute. Teva paiera 85 millions de dollars à l'État d'Oklahoma et Pure du Pharma 270 millions, mais dans une trentaine d'autres États américains, près de 2 000 plaintes ont été déposées contre ces laboratoires pharmaceutiques. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
La crise des opiacés, ses conséquences aux États-Unis, à lire sur franceinter.fr. Alors qu'en France, plus de 400 000 tranquillisants de contrebande ont été saisis par les douanes à l'entrée du tunnel sous la Manche à Calais la semaine dernière. Des bidons de diazépam, souvent utilisés comme substitut aux opiacés ou à l'alcool. Comment taxer les GAFA? La France est en train d'adopter une loi en attendant que les pays de l'OCDE se mettent d'accord. Ils ont justement rendez-vous pendant 2 jours à Paris pour trouver la parade et faire payer les Google, Apple, Amazon pour les profits qu'ils font sur leur sol et qui échappent à l'impôt. Faustine Calmel.
Les 129 représentants vont plancher sur 3 pistes. D'abord, qu'un pays puisse taxer une entreprise qui ne se trouve pas sur son sol. Exemple, Netflix a en France de nombreux clients, mais aucun employé. Le service de vidéo à la demande ne déclare aucun bénéfice et ne verse donc aucun impôt. Ensuite, il faudra définir le partage des profits entre les différents pays où l'entreprise exerce. Et enfin, explique Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, choisir un taux d'imposition minimum.
Si une entreprise réussit à localiser des profits dans un paradis fiscal ou dans un pays qui taxe en dessous d'un certain niveau à définir, peut-être 12 ou 13%, les pays de résidence de cette entreprise vont pouvoir prendre la différence, de faire en sorte qu'une entreprise ne puisse plus bénéficier d'un régime fiscal trop favorable.
Et pour arriver à un compromis, Pascal Saint-Amand défend qu'il vaut mieux un texte commun que rien du tout.
S'ils ne se mettent pas d'accord, chacun de ces pays prendra des mesures unilatérales. Et alors là, ça aura des impacts très négatifs sur les investissements, sur la croissance, parce que les entreprises feront face à de multiples impositions sur les mêmes profits.
L'OCDE espère obtenir un cadre de travail d'ici demain soir. Le projet doit être présenté au ministre des Finances du G20 la semaine prochaine au Japon.
Johnny Hallyday résidait-il en France ou aux États-Unis? De la réponse à cette question dépendra la suite de la bataille pour son héritage lancée par ses aînés déshérités David et Laura. C'est le tribunal de Nanterre qui va trancher aujourd'hui en se déclarant compétent ou pas pour étudier la succession. Gare aux loups, il serait 500 sur le territoire, trop nombreux pour les éleveurs qui seront aujourd'hui. Combien de ces prédateurs seront tués cette année? L'an dernier, l'État avait autorisé 51 tirs de loups, soit 10% de sa population. Cette fois, on parle de 17% pour faire face à l'augmentation de leur nombre. Mais la Fédération nationale ovine veut aller plus loin et réclame une mesure qui va faire bondir les défenseurs du loup. Le droit d'armer tous les bergers pour se défendre des attaques de troupeaux, comme l'explique son secrétaire général Claude Font.
Ce que nous on réclame, c'est que l'État accorde à tous les éleveurs de pouvoir utiliser ces tirs de défense simples, avec des fusils, bien sûr, il ne faut pas se cacher, tirer sur le loup, des fois de manière létale, hein, mais avec un objectif d'apprentissage. On sait qu'un loup mort ne transmet rien à ses congénères, mais un loup blessé peut éventuellement dire à ses congénères, ici, il y a un danger potentiel, on n'y va pas. Alors, chaque fois qu'il y a une arme, il y a un danger potentiel, on en est bien conscient, mais on ne peut pas laisser 12 000 brebis et des centaines d'éleveurs dans le désarroi à cause d'une prédation qu'ils n'ont pas voulu. Le chien de protection associé avec des tirs de défense systématiques serait plus efficace.
Claude Font, éleveur en Haute-Loire et secrétaire général de la Fédération nationale ovine, au micro de Sandy Dauphin. Un mardi à Roland-Garros, on suivra aujourd'hui la numéro 1 mondiale Naomi Osaka, la tenante du titre Simona Halep ou encore le numéro 1 français Gaël Mon fils. Hier, ce fut une promenade de santé pour Rafael Nadal et Novak Djokovic. Passage facile du premier tour du tournoi. Ce fut moins évident pour Serena Williams. C'est quasiment héroïque pour Pierre-Hugues Herbert face à un joueur mieux classé que lui et après 2 sets de retard.
Le prix du livre Inter, il est 8h15. Florence, le compte à rebours a commencé.
Les délibérations auront lieu le dimanche 9 juin sous la présidence de Riyad Satouf. Et d'ici là, nous allons vous faire découvrir les 10 livres en compétition. Ce sont les auteurs qui vont nous les présenter chaque matin. Et c'est Emmanuel Bemaktam qui ouvre le bal avec Arcadie, publié chez POL, l'histoire d'une initiation du passage de l'enfance à l'adolescence.
C'est l'histoire d'une petite fille qui arrive très jeune dans une communauté libertaire, libertine, installée dans une zone blanche. Donc sans technologie, sans internet et sans smartphone. Et c'est la façon dont elle va grandir finalement dans cette communauté de gens un peu éclopés, un peu abîmés par la vie. Et par ailleurs, il lui arrive ce qui arrive à tout le monde à la puberté, c'est-à-dire que son corps se transforme. Sauf que le sien, finalement, subit une espèce de métamorphose un peu étrange. Voilà, il va plutôt se viriliser au lieu d'aller vers davantage de féminité. Le sien de corps va rester bloqué dans une espèce d'intersexuation inexplicable.
Pourquoi vous voulez que cet enfant soit dans cette position-là ?
Il faut savoir que j'ai pas sauté sur ce sujet de façon un peu opportuniste parce qu'il serait à la mode depuis peu. Moi, j'ai toujours eu des personnages qui n'étaient finalement ni filles ni garçons, de même qu'ils étaient un petit peu insituables, hein, sur l'échiquier social, insituables aussi ethniquement. Donc ça m'intéresse d'avoir des personnages comme ça qui questionnent les formes, les normes, les critères en vigueur.
Emmanuel Bayamak, Tam, avec Eva Béton. Vous l'avez reconnu, vous l'entendrez plus longuement si vous vous connectez sur franceinter.fr ou si vous écoutez le journal de 13h. Et sachez que le lauréat du prix du livre inter, nous le dévoilerons ici même le lundi 10 juin.
Dans le 7-9. Merci Florence Paracuelos. Marie-Pierre Planchon, la météo.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et c'est une journée, Marie-Pierre, sous un ciel instable.
Et oui, excepté quand même autour de la Méditerranée où le vent va souffler fort jusqu'à 100 km par heure, qui va laisser une belle place au soleil, même si ça se voile parfois. Alors cette instabilité créée par l'arrivée d'une masse d'air plus froid, apportée par un vent de nord-ouest qui va souffler sur le pays, donnant dès ce matin des averses, voire du grésil, des côtes de la Manche, au Pays de la Loire, à la Normandie, au bassin parisien, aux Hauts-de-France, jusqu'aux Ardennes, ainsi que du sud-ouest au Massif central, au centre Jura, avec sur les Alpes, une limite pluie-neige des 1800 mètres. Et cet après-midi, pendant que ce temps instable orageux va gagner le nord-est, eh bien les régions du nord-ouest, arrosées ce matin, vont retrouver de belles éclaircies.
C'est plus lumineux autour de la Méditerranée.
Et oui, même si le ciel est voilé, éventé, sur le pourtour méditerranéen, le Mistral et la Tramontane qui vont souffler jusqu'à 80 km par heure vont donc balayer les nuages et favoriser le soleil. Et dans les Alpes du Sud, par contre, et l'arrière-pays niçois jusqu'en Corse, un orage n'est pas exclu, avec du vent fort également aujourd'hui. Le mercure est donc en baisse, pas plus de 14 à Aurillac cet après-midi, 15 à Dinard, 16 à Clermont-Ferrand, 17 dans la capitale, mais aussi à Nancy et Saint-Jean-de-Luz. Vous aurez 18 à Nantes, à Strasbourg, 19 à Toulouse, 21 à Nice et Bastia ou Perpignan, 23 à Montpellier et 24 à Marseille.